Espace public sur Couleur FM, l'émission qui donne des couleurs à la politique. Retrouvez chaque semaine les candidats aux élections municipales 2014.
Espace public, nous sommes toujours en plein dans les élections municipales cette année 2014. Et riche pour cela, et nous sommes toujours à Villefontaine, et cette fois-ci avec Guy Poulain et Dilek Attès, qui représentent la liste Renouveau, le Renouveau de Villefontaine. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un peu particulier, on était habitué à avoir un seul candidat en face de nous, et puis là vous êtes deux, normalement. Votre tête de liste s'appelle Pierre Porte. Alors, on va vous laisser vous présenter, votre liste. D'accord. Comme vous le souhaitez.
Bien, bonjour. Notre liste est déjà représentée par une tête de liste, hein, c'est le moindre des choses, qui s'appelle Monsieur Pierre Porte. Pierre Porte, c'est quelqu'un qui a 54 ans, qui est mécanicien ajusteur. Il est domicilié à Villefontaine depuis 1990. Il est entre autres chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Et il est président des jardins familiaux de Villefontaine depuis 1994, c'est-à-dire depuis 20 ans. On note quand même une certaine stabilité dans ses fonctions de président. Cette liste étant présidée par Pierre, elle est déjà, il faut le remarquer, apolitique, c'est-à-dire sans étiquette. Sans étiquette, c'est vraiment un choix délibéré, c'est ce qui a été non seulement souhaité, mais voulu au départ. Alors bien sûr, on peut retrouver parmi les composants de la liste des gens qui ont un parcours déjà politique, hein, quel que soit le niveau de toute tendance, mais pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils font une démarche que l'on peut quand même qualifier de politique. Ce qu'il faut remarquer, c'est que toutes les catégories socio-professionnelles sont présentes dans notre liste. Hein. Vous trouvez des interprètes, des chefs d'entreprise, un chauffeur de bus, un chef de cuisine, un ouvrier, un animateur commercial, des employés des secteurs publics et privés, des étudiants. Enfin, on trouve toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, à droite, on peut se demander pourquoi une liste non étiquetée. Comme je vous le disais auparavant, c'est d'abord un rassemblement de citoyens, de concitoyens, qui aspirent à participer à la vie collective, déjà d'une commune, de notre commune, pour œuvrer pour la collectivité. Je dis bien pour la collectivité, uniquement pour cela, sans avoir à prendre ses ordres et à rendre compte à une oligarchie politique qui n'en a que faire des problèmes de nos concitoyens. Il est vrai que les Français n'acceptent plus ce clivage politique gauche-droite dans lequel on veut les enfermer et qui leur est présenté comme la seule alternance possible. Je pourrais continuer un petit peu sur la motivation de cette liste, mais je pense que l'essentiel est donné.
On va revenir peut-être au sens derrière. Et vous, tous les deux, finalement, oublions le principe collectif, là, deux secondes. Vous, Guy Poulain, qui êtes-vous?
J'allais citer Pierre Dac, mais je ne vais peut-être pas vous la faire. Qui je suis? Alors moi, sur le plan professionnel, je suis ingénieur conseil. J'ai monté récemment un bureau d'études à Villefontaine. Je suis quand même très sensible à ces démarches de volonté d'action de la part de nos concitoyens. Et si vous me demandez est-ce que vous appartenez à une mouvance ou à un parti politique, je répondrai oui, à titre particulier, oui, j'ai une affinité pour un mouvement qui s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, de François Asselineau. Ceci, ça ne vaut que pour moi.
Il semblait que pour Pierre Porte aussi, par exemple, votre tête de liste, non?
Il est assez sensible à l'UPR aussi. Mais lui, il n'est pas adhérent.
Mais il n'est pas adhérent, pas encore. Et vous, Dilek Attès?
Alors, moi, donc, je suis âgée de 30 ans. Je suis arrivée sur Villefontaine à l'âge de 7 ans. Et je tiens à préciser que c'était dans le cadre d'un regroupement familial. Donc, je suis arrivée de Turquie à Villefontaine à l'âge de 7 ans. J'ai suivi toute ma scolarité sur la commune. Et je suis partie donc sur Grenoble pour des études supérieures. Je suis partie à l'étranger aussi pour y travailler. Et de retour donc sur la commune, je constate que donc celle-ci se dégrade. Je suis présidente de l'association Accès, association d'aide à la cohésion sociale et à l'intégration. Et je travaille aussi en tant qu'interprète et traductrice assermentée en langue turque.
Et qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette liste?
Donc c'est la volonté d'agir pour ma ville. J'ai fait des constats, oui, personnels. Donc c'était une ville qui était vivante depuis mon arrivée. C'était une ville qui était très vivante. Il y avait beaucoup de manifestations culturelles. Et là, on se retrouve, j'ai un enfant de 5 ans, et on se retrouve quand même dans une ville qui est assez, qui manque de dynamisme, qui manque de vie.
Une liste apolitique, vous disiez, sans étiquette, qui semble finalement effectivement se moquer un petit peu de cette distinction gauche-droite qu'on veut à tout prix calquer sur les représentants politiques aujourd'hui. Quand on écoute un petit peu ce qui se dit, on vous prend assez volontiers pour une liste de droite.
Si vous voulez, c'est un peu la conséquence de ce clivage gauche-droite, c'est-à-dire que si vous êtes un peu différent de, bah, pour l'instant, de l'obédience en place, vous êtes forcément, et que vous êtes un peu contestataire de ce que vous voyez, vous êtes forcément catalogué au moins à droite, voire à l'extrême droite. C'est un principe général qu'on retrouve de nos jours.
Alors c'est aussi peut-être un principe, mais qui peut être présent à droite, à l'extrême droite, à gauche, à l'extrême gauche, dont nous parlions avant l'émission, et présenté comme quelque chose d'essentiel par François Asselineau, donc de l'UPR dont vous parliez tout à l'heure, qui est effectivement la souveraineté nationale, la souveraineté populaire.
Oui, c'est ça. C'est parlons bien de souveraineté nationale et pas de nationalisme, ce qui n'a strictement rien à voir. Puisque vous parlez de François Asselineau, l'objectif, c'est de rendre à ce pays sa souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir décider par lui-même de son avenir, et en termes monétaires, et en termes de politique économique, sans avoir à aller prendre des ordres ailleurs, dans l'Union européenne, ou au-dessus éventuellement.
Alors revenons à la commune, enfin la ville, pas la liste de vos adversaires, bien entendu. Quelles sont vos préconisations pour la commune? Et commençons peut-être traditionnellement par le plan économique. Comment jugez-vous aujourd'hui votre commune à ce niveau-là? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle ne va pas bien? Est-ce que vous avez envie de changer les choses?
Alors, est-ce qu'elle va bien? Tu veux dans tous les domaines ou...
Elle va bien, non, elle va pas bien, la commune. La commune, elle va pas bien. C'est un fait, donc elle perd ses commerces. Tous les petits centres commerciaux qui sont au sein des quartiers, comme le centre commercial du centre-ville même, se retrouvent avec des stores baissés. La ville perd ses habitants. On avait constaté à peu près 800 en 2 années, il me semble.
On a regardé sur 2 ans, c'est pas vu, hein, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2014. Nous avons perdu 781 habitants, alors que dans le même laps de temps, Bourgoin-Jallieu en a accueilli 850. Donc on sent bien un désintéressement des gens pour notre commune.
Pour notre commune. Je t'en prie. Oui. Et par rapport donc au commerce, à la vie, on se retrouve avec un cercle vicieux qui fait que en perdant les habitants, bah, les commerces perdent des clients potentiels, et donc ça devient un cercle vicieux.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire?
Nous avons l'ambition, on veut profiter de la rénovation du centre-ville pour créer une avenue commerçante qui pourra être accessible, à l'inverse de ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire des centres qui sont dans des impasses, c'est ce que nous avons actuellement. Nous voulons aussi inciter les artisans et les commerçants à venir s'installer sur notre commune. Ça peut être en leur facilitant l'accès aux locaux, par exemple, en leur fournissant des aides. L'adjoint qui sera chargé des commerces et de l'artisanat les suivra dans leur parcours. Un petit déjeuner qui pourra être organisé avec les commerçants et les artisans pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent échanger, ou sinon les jeunes qui peuvent aller les voir aussi pour avoir un contrat en alternance ou des choses comme ça. Et en tant que municipalité aussi, nous montrerons l'exemple au Villard, c'est-à-dire en devenant client des commerces et des artisans qui sont installés sur notre commune.
La commune a suffisamment de locaux, a suffisamment de moyens pour impulser ça, toute une avenue de commerce pour.
Alors, elle a des moyens, oui, effectivement. Elle a un potentiel d'investissement qu'elle peut mettre en œuvre, hein, sans augmenter le niveau d'imposition. Elle a aussi différents leviers pour agir à ce niveau-là. Vous savez que nous sommes très dépendants des dotations, que ce soit les dotations de l'État ou les dotations de la CAPI. Nous ne penserons pas que nous obtiendrons beaucoup de choses des dotations de l'État, puisque l'État se désengage de nos jours des collectivités territoriales ou communales. Par contre, on peut très bien aller négocier avec la CAPI. La CAPI, rappelons-le, est une communauté d'agglomération dans laquelle un certain nombre de communes mettent en commun des ressources. Et ces ressources ont pour but d'être un peu plus... ont pour but de rétablir une éventuelle injustice entre différentes communes, entre des communes qui seraient assez aisées, pour différents critères, et des communes qui seraient les parents pauvres. Vous comparez simplement Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier. Saint-Quentin-Fallavier, c'est très bien, mais Saint-Quentin-Fallavier a la chance d'avoir un territoire qui lui a permis dès l'origine de pouvoir implanter un certain nombre de, non pas de commerces, mais une grosse zone d'activité où vous avez un certain nombre de zones de dépôts de dépôts logistiques. Nous ne pouvons pas le faire puisque notre territoire ne nous permet pas de le faire d'une manière satisfaisante. Nous n'avons que quelques zones où nous pourrions le faire. Donc il convient de dire à la CAPI, prenez en compte ces différences, répartissons un peu mieux équitablement ces ressources que les communes mettent en commun.
Est-ce que derrière, il y a des solutions pour l'emploi ?
Alors, pour l'emploi, déjà, ce qui est important, c'est d'enlever cette mauvaise image de la commune, c'est-à-dire de permettre donc à notre ville de rayonner par des activités. C'est un fait, c'est-à-dire que quand on se présente à l'extérieur dans d'autres communes et on dit qu'on est de Villefontaine, on a un regard assez spécifique, c'est-à-dire Villefontaine, voilà, c'est...
Voilà. Donc, être habitant de Villefontaine, c'est un peu comme être habitant d'un quartier populaire autour de Lyon, par exemple.
C'est devenu comme ceci.
C'est stigmatisant.
C'est stigmatisant. Et je pense que ça peut faire fuir des employeurs.
Et deuxièmement, on peut très bien mener une politique. Alors déjà, ce qui serait intéressant de faire, c'est de donner un peu plus aux jeunes la chance d'avoir une formation un peu plus conséquente et de ne pas laisser toute cette partie de notre jeunesse plus ou moins à l'abandon. Donc l'accompagner sans formation, sans culture, c'est difficile après de trouver un emploi. Et troisièmement, à partir du moment où on essaye de redynamiser notre ville, de créer un commerce de proximité, on va forcément aussi créer des emplois. Si notre ville est attrayante, des entreprises modestes, certes, des entreprises viendront s'installer. Alors, il y a moi-même qui vous parle. J'ai créé ma petite entreprise, mon bureau d'études. Fin août de 2013, j'espère bien pouvoir la faire progresser et embaucher des projeteurs, des ingénieurs. Ceci étant, ça serait bien quand même qu'une municipalité fasse un petit quelque chose pour favoriser cette démarche-là.
Comme l'idée de la clause en fait emploi qu'on veut insérer dans la rénovation urbaine, c'est-à-dire favoriser donc les personnes qui sont handicapées, les travailleurs, les chômeurs longue durée par exemple, pour les insérer plus facilement.
Donc, de manière à les embaucher prioritairement.
Voilà.
Dans tout ce qui se refait dans la ville.
C'est ça.
Et peut-être aussi faire au niveau des marchés publics. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire du favoritisme pour des marchés publics, mais vous avez toute une partie de petits marchés qui s'appellent les marchés de gré à gré. Peut-être pourrait-on penser à déjà aller voir localement le tissu économique, les entreprises de notre commune, pour leur attribuer éventuellement certains de ces petits marchés. En fonction de leurs compétences, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire d'assistanat.
Ce que vous nous disiez tout à l'heure, en effet. Alors, vous compariez Villefontaine avec un quartier populaire. Mmh. On connaît justement la précarité que vivent beaucoup de gens dans ce type d'endroit. L'une des prérogatives des communes, c'est l'accompagnement social, c'est le social. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme sur le social ?
Alors, concernant le social, nous, on veut vraiment travailler sur le bénévolat, bénéficier du bénévolat qui est une richesse et un moteur pour la commune. On a sur Villefontaine donc une vie associative qui est très riche. On veut travailler donc par le biais du CCAS et des associations qui sont présentes pour développer le bénévolat et pour inciter les villards à devenir donc bénévole. Il y a beaucoup d'entre eux qui souffrent de la solitude, d'une part, et pour eux, offrir quelques heures par semaine ou par mois, ça peut être déjà enrichissant sur le plan personnel, enrichissant sur le plan social. On voudrait développer le système d'échange local aussi, qui compte sur une ville qui est comme la nôtre de 18 000 habitants, qui compte une centaine d'adhérents. Donc c'est un moyen d'échange alternatif, et ça permettrait aux citoyens de se rencontrer, de tisser des liens, et souvent de pallier un besoin en échangeant soit un service ou un bien.
Voilà, le système d'échange local, c'est quelque chose qui se décale de l'économie, qui marche sur l'échange de services sans monnaie, c'est ça?
C'est ça. Donc la monnaie, c'est les lentilles.
Des lentilles,
hein? Oui, des lentilles.
En plus, ça se mange.
Dans ce cas-là.
Très bien. Alors, mais peut-être on va pouvoir passer à la pause musicale. Et vous parliez de bénévolat. Là, pendant un instant, vous allez devenir bénévole de notre radio. Mmh. Et nous préconiser la pause musicale qu'on va passer tout de suite.
D'accord. Alors, j'ai choisi une œuvre. Ce n'est pas toujours facile de faire un choix quand on aime la musique, hein. Et j'ai pensé, parce que déjà dans l'intérêt du moment, j'ai pensé à vous faire entendre un court extrait des Troyens de Berlioz.
Pourquoi ?
Rassurez-vous, on ne va pas vous passer l'intégralité, il y en a pas plus de 5 heures. Pourquoi ? Alors c'est mon petit côté goulu, gourmand, jouissif, puisque la musique déjà de Berlioz, c'est quelque chose qui est somptueux, qui se dévore, dont on jouit, je le disais. Et à ce propos-là, je me rappelle très très bien une remarque de Samson François à qui on demandait « Mais pourquoi aimez-vous la musique ?» Et lui de répondre « Vous savez, toute ma conception de la musique a toujours été plus ou moins sentimentale. J'aime la musique par amour, tout bêtement, et sans me poser de questions. »
C'est vrai, ça. Quel morceau particulièrement parmi ces 5 heures ?
Justement, le duo de Didon et Aîné, de l'acte 4. Alors, on vous situe un tout petit peu le décor. Didon est la reine de Carthage, Aîné est le prince des Troyens, qui ont fui donc Troie, parce que Troie avait été envahie par les Grecs. Mais Aîné a une mission que lui ont confiée ces deux, c'est de fonder de nouvelles patries. Donc, une fois arrivé à Carthage, il lui arrive bien évidemment ce qui arrive entre un homme et une femme, tombe éperdument amoureux. Et là, c'est ce petit duo d'amour que je voudrais vous faire écouter, tout en vous précisant que malheureusement, ça va se terminer tragiquement, puisque Aîné va devoir partir pour assumer sa mission, son rôle de fondateur de l'Italie, et Didon mourra, Didon se sacrifiera, Didon s'immolera.
On l'écoute.
C'était donc les Troyens de Berlioz. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Espace Public, l'émission qui donne de la couleur à la politique. Et nous sommes en compagnie de Guy Poulain et de Dilek Attès pour la liste Renouveau de Villefontaine. Alors, la jeunesse à Villefontaine, une population extrêmement jeune, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux dans votre programme ?
Effectivement, donc une population extrêmement jeune qui a besoin qu'on leur offre la chance de s'exprimer, qu'on leur offre les moyens de s'exprimer et de faire des choses. On veut premièrement, par exemple, augmenter l'amplitude de l'ouverture de la bibliothèque municipale, qui n'est pas suffisante pour les personnes qui travaillent ou les étudiants qui sont à l'école aussi. Profiter aussi du hall du centre Simone Signoret. C'est un hall qui est vide. Et on pourrait s'en servir pour faire des expositions, pour que nos artistes locaux en herbe puissent exposer leurs œuvres, leurs tableaux. Ça peut être leurs sculptures, des bijoux. On a eu Cédric Legrain nous disait, on a découvert un talent à la télé, alors qu'elle était de Villefontaine, elle est passée dans une émission de chansons, et on le savait pas jusqu'au jour où c'est Monsieur le Maire qui nous l'a présenté lors des vœux en ce début d'année. Donc c'est dommage que sur la commune nous ne sachions pas qu'il y a une personne qui a participé, qui avait du talent et que les villards n'étaient pas au courant. On voudrait valoriser le vieux village qui a été le cœur de la commune jusqu'à le développement du centre commercial, le marché de Noël qui serait très bien là-bas, animé pour les enfants, pour les jeunes. Il faudrait qu'on prenne soin de nos étangs, de la réserve naturelle qui est laissée à l'abandon, parce qu'il y a quelques années encore, il y avait un observatoire où en famille on pouvait y aller, avec l'école aussi, quand j'étais au GS10 on pouvait y aller, on pouvait observer donc la réserve naturelle qui aujourd'hui est laissée à l'abandon. C'est vraiment dommage. Il y a un projet de un jour un quart qui veut être donc développé, c'est-à-dire c'est renforcer les jumelages qu'il y a avec les pays voisins, l'Italie qui a quelques heures de route, ou l'Espagne aussi. Pour les jeunes, c'est une bonne chose. On peut aussi au cinéma Le Fellini favoriser la diffusion des films en VO ou des films d'auteur, qui serait une bonne chose. De toute façon, on peut pas malheureusement concurrencer, comme disait donc la personne qui est chargée du service culturel, concurrencer avec le méga royal de Bourgoin-Jallieu malheureusement. Donc pourquoi pas se diversifier et attirer d'autres personnes sur la commune. Et nous voulons aussi organiser des activités avec le phare, le foyer d'animation des retraités. Et avec les maisons de quartier aussi, pour permettre des échanges intergénérationnels entre les jeunes et les personnes âgées.
Alors justement, c'est pas un peu compliqué à Villefontaine, puisque vous êtes effectivement entre Bourgoin-Jallieu, vous avez la TCAPI qui a une programmation culturelle. Est-ce qu'au point de vue culture, vous avez aussi envisagé des choses avec les Villards sur la salle d'Aliel Balavoine qui a été récemment rénovée? Quels sont vos projets là aussi en association éventuellement avec les associations Villardes?
Ce qu'il faut déjà savoir à propos de la salle Daniel Balavoine, c'est que quand une association veut faire une manifestation là-bas, elle doit déjà débourser 300 euros. Donc ça limite bien les possibilités.
Donc la première chose à faire, ça serait d'enlever cette taxe de 300 euros pour l'accès aux associations. Et donc développer justement la venue des artistes, comme le fait Porcieux par exemple. C'est ce qui nous avait été promis lorsque cette salle Daniel Balavoine ou le théâtre du Velin a été construit. Donc la venue des artistes connus sur notre commune.
Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec la programmation du théâtre du Velin justement? Programmation faite par la CAPI?
Non, c'est quelque chose de complémentaire, tout simplement, pour faire au niveau de la commune.
Autre sujet, à la rentrée scolaire, il va y avoir la réforme des rythmes scolaires avec l'obligation en 2014 de s'y conformer. Alors, est-ce que vous avez prévu déjà des choses pour les jeunes Villards?
Déjà, une simulation a été faite suite à un questionnaire à une... Enfin, c'est même pas un référendum, mais suite à une demande au Villard de répondre sur le sujet. Donc on sait à peu près, enfin on sait pas à peu près, on connaît à peu près le coût des choses. Maintenant, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent, c'est ce qui était prévu justement pour ces animations dans ce cadre-là.
Donc ce sont des animations qui sont à travailler, donc que ce soit avec les personnels de la mairie, donc les fonctionnaires déjà, et avec les écoles.
Mais une vraie animation culturelle, un peu sportive, ça ne transforme pas en une simple halte garderie.
Avec un, comme cela a un coût, alors la première année il y a une aide de l'État, après il n'y a plus rien du tout. Alors, est-ce que vous prévoyez effectivement de faire une animation payante en périscolaire ?
La question est à l'étude. Comme nous n'avons pas tous les éléments pour finaliser le projet, on peut aussi espérer qu'en examinant de très près notre budget, nous pourrons dégager suffisamment pour assurer la gratuité de ces services.
Alors, pour terminer et changer de thématique, il semblerait que la sécurité soit une des problématiques qui vous tiennent à cœur aussi.
C'est une problématique qui nous tient à cœur, comme la plupart des communes ici sur la CAPI ou au niveau national aussi. Je veux dire, la sécurité, c'est commun à toutes les communes. Les villards, je l'exprimais tout à l'heure aussi, les villards ont besoin de rentrer et de sortir de chez eux tranquillement, en toute sécurité. Ce qu'on voudrait faire, nous, c'est que avec la police municipale, c'est les affecter à des travaux d'îlotage, c'est-à-dire affecter des fonctionnaires à des quartiers. Ça va leur permettre de connaître le quartier, les habitants qui y sont, et donc de savoir comment se passent les choses et de communiquer donc avec les commerçants ou les jeunes. C'est donc une action de prévention. Et comme notre projet de travailler avec la CAPI pour avoir une surveillance, une télésurveillance, c'est-à-dire pour permettre une vidéosurveillance plus efficace.
Il faut mettre plus de caméras, il faut mettre plus de policiers municipaux.
Dans certains coins particuliers, mais en mutualisant quand même le coût de ces équipements qui ne peuvent pas être supportés par une petite commune.
Donc
ça rentre dans le cadre d'une politique un peu plus générale.
Voilà, et sécurité. Vous parliez justement de la présence des policiers municipaux, donc avec une mission de prévention, de proximité.
De proximité et de prévention, surtout.
Ou souhaitez-vous davantage, peut-être plus les armées, leur donner une mission répressive ?
Non, c'est plus de la prévention, donc parce que on a le souci d'avoir des jeunes qui ne comprennent pas vraiment ce que font les forces de l'ordre, malheureusement. Je voulais revenir aussi à notre projet. On voulait mettre en place un numéro d'urgence 24 heures sur 24 pour les villards. Et créer un comité local de sécurité et de prévention pour faire le point justement avec les élus, les forces de l'ordre, les établissements, de ce qui va et ce qui ne va pas, toujours dans la prévention.
Et les bailleurs sociaux éventuellement aussi qui sont partie prenante.
Bien sûr.
On va peut-être terminer avec la présentation du livre. Alors monsieur, je crois que c'est monsieur Poulain qui a choisi le livre aussi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix et pourquoi ce choix ?
Oui. Alors, ça n'est pas à proprement parler une œuvre littéraire, c'est plus un ouvrage économique de dimension modeste. Ça s'appelle « Le retour au standard or » du professeur Antal Fekete, qui est un économiste bien connu dans le monde. L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il analyse la relation qu'il y a entre la monnaie, la fabrication monétaire, et l'or, c'est-à-dire son rattachement ou son adossement à un métaux précieux. C'est l'or, ça pourrait être l'argent. C'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en lisant ce petit ouvrage. Par exemple, on voit qu'en 71, Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or, c'est-à-dire que le dollar ne devient plus qu'une monnaie. Une monnaie qui fait ce qu'elle veut, qui est adossée sur rien, qui vit par elle-même. Il faut savoir quand même que le dollar, depuis sa création, a perdu 90% de sa valeur. On y apprend aussi des choses sympathiques, notamment les ventes d'or de la France par M. Sarkozy en 2002, 600 tonnes d'or, alors que les cours sont au plus bas, et qu'il est ministre du budget en 2010, 56 tonnes. Tout ça pour faire plaisir à ces homologues américains qui voulaient soutenir le dollar. Donc c'est un ouvrage qui n'est pas, on va dire, qui est accessible sur le plan écriture, qui emploie des mots assez simples, mais qui offrira à tout un chacun une petite vue sur ce qu'est la monnaie et ses répercussions sur un ensemble de domaines économiques.
Très bien. Eh bien, on vous remercie infiniment d'être venu nous voir.
Merci.
Merci.
Donc, c'était Guy Poulain et Dilek Attès pour la liste Renouveau de Villefontaine, conduite par Monsieur Porte. Et on vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci à Thierry, merci à Laurent.